un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, nous sommes au mois de mai 1798, le 19 exactement, jour du départ de l'escadre française vers l'Égypte. À la tête de cette expédition, un jeune général, il n'a pas 33 ans, il s'agit, vous l'aurez reconnu, de Napoléon Bonaparte. C'était là le début d'un mirage ou d'un rêve oriental pour certains, d'une erreur politique et militaire pour d'autres. En tous les cas, la promesse de découvertes scientifiques et archéologiques considérables. Pourquoi et comment cette expédition s'est-elle organisée? Comment la France, épuisée par la Révolution et par les guerres, a-t-elle monté une telle aventure? Qui furent les hommes de la campagne d'Égypte? Quelle victoire? Quelle défaite? Et enfin, quelle fut la postérité de cette expédition? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, je reçois Henri Laurence. Henri Laurence, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes professeur au Collège de France, vous titulaire de chaire. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la campagne d'Égypte. Vous avez commencé par votre thèse de doctorat sur les origines intellectuelles de cette campagne. Et le dernier ouvrage que vous avez publié est un recueil de textes paru chez CNRS Éditions. Ce livre s'intitule Oriental. Il s'agit du premier tome. Le premier tome est consacré à l'expédition d'Égypte. Il y en a deux autres. Un autre consacré à l'islam et à la Troisième République, et enfin un dernier consacré à l'Orient contemporain. Alors, nous vous recevons aussi à ce micro parce que vous venez de recevoir un prix de l'Académie des sciences morales et politiques.
Je suis particulièrement honoré.
Il s'agit du prix Joseph Dutheil, qui honore précisément une œuvre liée à l'histoire diplomatique. Alors, Henri Laurence, ma première question sera, ma foi, assez simple. Pourquoi l'Égypte? Comment se fait-il qu'à la fin du XVIIIe siècle, la France se soit intéressée à un pays qui était si loin?
Vous savez, c'est toujours un problème de déterminer les causalités en histoire, puisque l'historien en général peut déterminer des couches de raisons, de motivations, etc. Donc à la fin du XVIIIe siècle, dans cette période finale, de la Révolution française, vous avez des impératifs militaires, des impératifs géopolitiques, mais vous pouvez aussi avoir de nouvelles orientations idéologiques, culturelles, etc. C'est-à-dire qu'on a des temporalités de multiples durées. Et puis, c'est aussi la vieille question sempiternelle de savoir comment les hommes font l'histoire. Ils la font, mais comment? Je veux dire par là que c'est la même génération qui fait la Révolution française, qui fait aussi la Révolution industrielle en Europe, mais qui fait aussi la conquête du monde dans le cadre de la colonisation. Et en quelque sorte, l'expédition d'Égypte peut aussi se retrouver dans ces intermédiaires. Alors, pour revenir au sens le plus évident d'histoire dite diplomatique militaire, c'est tout simplement la conséquence logique des traités de Bâle et surtout du traité de Campoformio. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la guerre continue en Europe, et c'est une guerre contre l'Angleterre, puisque les négociations de paix avec l'Angleterre ont échoué, la République, ici c'est le Directoire, se trouve dans le même problème qui va dominer toute la politique française jusqu'à 1814 ou 1815, c'est-à-dire que la guerre contre l'Angleterre suppose soit de faire une expansion continue en Europe continentale pour casser le commerce anglais, ce sera la politique qui sera menée ultérieurement sous le nom de blocus continental, ou soit d'aller frapper l'Angleterre dans ses œuvres. Or, au début de 98, les estimations des militaires français ont montré que la France était incapable de traverser la Manche à cause de la flotte de guerre britannique. Donc, puisqu'on ne peut pas traverser la Manche, puisqu'on ne peut pas faire, parce qu'on juge qu'on ne peut pas faire l'expansion continentale à outrance, ce qui sera fait plus tard, on décide de frapper l'Angleterre de ce qu'on considère comme sa base de puissance, c'est-à-dire l'Inde. Et l'Égypte est la voie par laquelle on doit accéder en Inde. Et ce calcul qui nous paraît complètement fou aujourd'hui est parfaitement rationnel parce que l'Angleterre a réellement pris avec panique l'expédition française d'Égypte et l'a ressenti réellement comme un danger mortel.
Vous parlez de politique extérieure, est-ce qu'en termes de politique intérieure, ce n'était pas aussi un moyen d'écarter Bonaparte de France?
Le régime directorien est encore très fort à cette date. Nous sommes au lendemain des 18 Fructidor. Bonaparte n'est pas mécontent de se tenir un peu à l'écart ces divisionnaires lui ont proposé, semble-t-il, parce que les choses sont pas très claires, de faire déjà un coup d'État au lendemain de son retour d'Italie, mais il a refusé, parce qu'il considère que la poire n'est pas mûre, ou en tout cas qu'il n'est pas prêt, ou que la conjoncture politique ne s'y prête pas. Mais le fait même qu'il soit l'un des grands promoteurs avec Talleyrand de l'expédition montre que ses intentions ne sont pas de cette nature. L'accusation faite au régime directorien d'avoir écarté un général brillant et dangereux politiquement est une accusation qui va avoir lieu l'année suivante dans la conjoncture des défaites militaires françaises de 1799 et des échecs français en Égypte. À ce moment-là, oui, il y aura toute une campagne en disant que le directoire a sacrifié une des meilleures armées françaises, ses meilleurs généraux, pour des raisons de base politique intérieure. En réalité, dans la préparation d'expédition d'Égypte, qui s'est fait extraordinairement vite, dans une totale improvisation, puisque la décision a été faite entre février et mars 98 et l'embarquement en mai, vous voyez à quelle vitesse les choses se sont faites, dans un système de communication qui n'est pas du tout le nôtre aujourd'hui, tous les témoignages concordent. Ça a été plutôt un mouvement d'enthousiasme collectif dans les cercles dirigeants de la République.
Talleyrand faisait partie de ces personnes enthousiastes ?
Ah oui. Alors, qu'est-ce qui est à la base de cet enthousiasme des milieux dirigeants ? Eh bien, d'abord parce qu'ils sont encore des révolutionnaires, et qui voit en dehors de l'aspect militaire et géopolitique aller frapper l'Angleterre dans ses œuvres, il voit tout simplement l'universalisation de la Révolution française, qui n'est pas un message qui s'adresse aux seuls Européens, mais à l'ensemble du monde. Et donc en particulier au monde oriental le plus proche, qui est l'espace ottoman. C'est vraiment la doctrine d'universalisation de la Révolution qui s'applique là, dans le mouvement collectif. Au-delà, on entre dans les zones les plus troubles, les plus complexes de la psyché humaine, en particulier de la psyché des Lumières, c'est-à-dire dans la situation de ces gens. Alors, il faut bien comprendre le processus intellectuel. Le processus intellectuel, c'est que nous sommes à la première génération des christianisés. La religion est interdite en France ou à peine tolérée en 1798. Et depuis le début de la déchristianisation forcée, l'Égypte est au centre de l'imaginaire révolutionnaire.
On peut parler d'un orientalisme au XVIIIe siècle ?
Ah oui, il est certainement plus puissant au XVIIIe siècle comme mouvement intellectuel qu'il l'est postérieurement. Mais avant de parler de l'orientalisme, il faut que je revienne sur ces éléments fondamentaux. Qu'est-ce que représente l'Égypte pour les gens des Lumières ? Dans la mesure où ils ont perdu un fil de l'histoire universelle, qui est le fil chrétien, ils ont besoin de reconstruire un schéma d'histoire universelle, ce qui est une première chose. Et donc, ils ont construit un mythe histoire qui est de dire que l'aube de la civilisation, les sciences et les arts, sont nées en Égypte. Ensuite, elles sont passées à la Grèce et à Rome, ensuite aux Arabes, ensuite à l'Europe. Mais le schéma est en fait plus complexe parce que ces périodes de l'histoire de l'humanité sont des périodes catégorisées par des valeurs. L'Égypte antique, c'est la sagesse. Pensez par exemple à la flûte enchantée de Mozart, qui est dans cette période, qui est justement le mythe de la sagesse. La Grèce et Rome, c'est le civisme. Et il suffit de voir toute l'iconographie révolutionnaire avec ses références à Plutarque, au civisme des Antiques, à Brutus, aux légions romaines, et ainsi de suite. Les Arabes, c'est la science. Les sciences, parce que les sciences occidentales sont toutes nées des sciences arabes. Si vous ouvrez l'encyclopédie, vous voyez à chaque science, les Arabes, l'Europe. Parfois la Grèce ou Rome, mais le plus souvent on reconnaît, par exemple, l'algèbre est une invention des Arabes et ensuite nous l'avons perfectionnée. La géométrie, certes, les Antiques en ont fait, mais les Arabes l'ont perfectionnée. Les Arabes sont les sciences. Alors ensuite, le schéma de l'histoire universelle, non pas s'inverse, mais se réintègre par qualité successive. C'est-à-dire que la Renaissance occidentale est prise comme un retour des sciences, parce qu'elles sont venues des Arabes. Ensuite, après les sciences viennent, avec la Révolution française, le civisme. Et donc, en Égypte, viendra la sagesse. C'est-à-dire que l'expédition d'Égypte est quelque part conçue dans des gens qui sont souvent liés à la franc-maçonnerie, comme la fin de l'histoire. Puisqu'en quelque sorte, en ramenant les sciences dans l'antre d'origine, on va synthétiser les trois qualités de l'histoire de l'humanité et on arrivera à la fin de l'histoire. Alors, au-delà de ça, il y a encore autre chose qui polarise la psyché de la fin du XVIIIe siècle, celle de la Révolution, c'est que puisque le christianisme est interdit, on n'enterre plus les gens sous des croix. Et dans ce cas-là, la France révolutionnaire se trouve en pénurie de symbolisme funéraire. Et donc, depuis le début de la Révolution, le symbolisme égyptomaniaque est emprunté à l'Égypte. Dans les grandes fêtes révolutionnaires, on célèbre les morts en édifiant des pyramides et des obélisques. Et quelque part, déjà les gens de la Révolution ont ce que nous cherchons toujours, nous, Européens en Égypte, enfin occidentaux en Égypte, c'est-à-dire le monde de la mort. Et donc, vous voyez, c'est avec ces mélanges de philosophie de l'histoire, de fascination semi-ésotérique, cette recherche de la sagesse en particulier s'accompagne ici, évidemment, de préoccupations militaires et aussi d'un projet colonial.
Donc, on peut vraiment parler de colonialisme à cette époque-là?
D'abord parce qu'ils utilisent le terme, enfin, on n'utilise pas le terme colonialiste à la fin du XVIIIe siècle, on parle des colonistes.
Des colonistes.
Ceux qui veulent des colonies. Alors là aussi, il faut bien comprendre les immenses mutations de l'époque des Lumières. La première expansion européenne, à partir des grandes découvertes, s'est faite dans le Nouveau Monde et s'est faite au nom de la croix. Les Portugais et les Espagnols étaient des croisés. Et c'était l'expansion chrétienne qui était recherchée. C'est ensuite aussi c'était le cas des protestants anglo-saxons, les puritains, le Mayflower, etc. Au milieu du XVIIIe siècle, on prend conscience que l'histoire européenne du Nouveau Monde est terminée. Tout simplement parce que le Nouveau Monde est en train de prendre son indépendance. C'est la guerre de 7 ans, la France perd le Canada, c'est la guerre d'indépendance des États-Unis, et on pense que très rapidement, le reste des colonies européennes du Nouveau Monde vont prendre leur indépendance, y compris les colonies françaises du Nouveau Monde qui restent, c'est-à-dire les Antilles. Alors, il faut trouver des colonies de substitution. Mais trouver des colonies de substitution pose un problème, c'est que ces colonies de substitution appartiennent à des mondes de vieilles cultures, de vieilles civilisations, absolument hermétiques au christianisme. C'est la Chine, l'Inde et le monde musulman. Et le Japon ici, bien évidemment. Donc, il faut adresser un nouveau discours justificateur qui ne peut plus être celui du christianisme de la croisade et en même temps qui cadre avec les nouvelles préoccupations des Lumières, les préoccupations révolutionnaires. Et donc, on réfléchit, on reconstruit l'idée que les Lumières, c'est la régénération de l'être humain, et la Révolution française est une œuvre de régénération. Et cette régénération de l'être humain va s'appliquer aussi aux peuples non-européens. Donc, ce que vont faire les Européens en attaquant les pays du tiers-monde, enfin, de ceux qui deviendront le tiers-monde, c'est les régénérer, c'est-à-dire les libérer. Et donc, on va établir des... On ne dit pas encore la démocratie à l'époque. On va établir, entre autres, en Égypte, une colonie modèle fondée sur un système d'institutions libérales représentatives qui ne pourront que satisfaire la population.
Ce que je vous propose, Henri Laurence, c'est de revenir sur cette question après, notamment d'évoquer le fameux général Menou. Après une première pause, à tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Henri Laurence, professeur au Collège de France et auteur du livre Oriental, un livre en 3 tomes. Et le premier tome est consacré à l'expédition d'Égypte que nous évoquons. Alors Henri Laurence, nous citions tout à l'heure Talleyrand. Et Talleyrand est l'auteur d'un rapport sur la situation de l'Égypte en 1798. Et il se trouve que ce rapport, on peut le comparer aujourd'hui à l'histoire contemporaine, il se trompe complètement sur la situation égyptienne et sur la réalité égyptienne.
Oui, mais c'est quelque chose de très angoissant parce que on pourrait trouver l'équivalent du rapport de Talleyrand dans les rapports politiques faits aux États-Unis en 2002-2003 sur la situation en Irak. Conquête militaire facile, la population sera heureuse à nous recevoir, on établira des relations de confiance, un régime représentatif, parce qu'à l'époque on ne parle pas de démocratie, le terme n'est pas utilisé à l'époque de la Révolution française. Et puis ensuite, on pourra avoir aussi des intérêts économiques français qui correspondront au bien-être de la population égyptienne. Et en quelque sorte, si vous voulez, le degré d'aveuglement du personnel dirigeant français début de l'année 1798 ressemble de façon extraordinaire au degré d'aveuglement du personnel politique américain en 2002-2003. C'est réellement un phénomène de même nature.
On va en revenir à la chronologie. La traversée de la Méditerranée va durer une quarantaine de jours. L'expédition va réussir à éviter Nelson, qui est en retard, qui est derrière. Et donc, l'expédition arrive près d'Alexandrie. Il y a, disons-le, une forme de débarquement. Et ils arrivent à Alexandrie après une très longue marche. Quels sont les premiers rapports avec la population? Quelle est la vision du soldat français de cette population égyptienne?
Ils pensaient venir dans quelque chose assez semblable à l'Italie qu'ils avaient généreusement pillée les années précédentes. Ils tombent dans un pays appauvri. Et évidemment, les soldats français sont pas très contents de ce type de situation. Puisque vous vous rappelez qu'en général, les armées de la Révolution vivent sur les pays. Comme le pays est pauvre, l'armée de la Révolution, elle vit pauvrement. Bon, le climat est hostile. En plus, ils débarquent en plein mois de juillet, enfin le 1er juillet, avec tout l'équipement et tout le barda. Donc, vous imaginez comme ça peut être arriver tout le barda sur le dos à 45 degrés à l'ombre.
Il y a un point extraordinaire qu'on relève dans les textes, c'est que les gourdes même n'étaient pas prévues pour ne pas l'idée d'une expédition en Égypte soit connue des Anglais. C'est une anecdote vraie?
Ça, je peux pas vous dire, faudrait vérifier, mais tout simplement, c'était d'abord quelque chose d'extraordinairement improvisé. Ce qu'ils n'avaient pas calculé, en fait, c'est la trajectoire initiale de l'armée. C'est plus simple. Ils ont débarqué à Alexandrie. Bon, donc, ils n'ont pas marché sur Alexandrie. Ils sont débarqués juste à côté, à Agami, et puis ils sont pris à Alexandrie. Évidemment, ils étaient 15 fois plus nombreux que la population d'Alexandrie, donc ça simplifiait les choses. Mais pour aller d'Alexandrie au Caire, le plan primitif de Bonaparte était de suivre le littoral jusqu'à Rosette et ensuite de remonter le Nil. Mais quand Bonaparte est arrivé à Alexandrie, il a appris que Nelson était passé là la semaine précédente. Donc il a accéléré le mouvement et il a traversé le désert pour aller au Nil, au lieu de suivre le littoral. Et c'est bien pour ça que la traversée du désert, qui a demandé 2 ou 3 jours à l'armée, a été un épisode de terrible souffrance pour les militaires français, avec en plus l'équipement qu'ils portaient sur le dos. C'était une improvisation de Bonaparte et non pas le plan primitif.
Quelle est la situation politique de l'Égypte à cette époque?
C'est la pagaille. C'est une situation extrêmement troublée. C'est en fait un temps des troubles. Alors, il faudrait des heures pour vous expliquer tous les tenants et les aboutissants. Disons, si vous voulez, que vous avez des milices militaires, qu'on appelle les Mamelouks, qui sont une vieille institution qui a plus de 5 siècles d'existence, qui tiennent à cette époque-là l'Égypte sous la souveraineté nominale du gouvernement ottoman. Et Bonaparte, en arrivant, prétend être envoyé par le gouvernement ottoman pour prendre l'Égypte. Et les Égyptiens l'ont cru, les Mamelouks aussi, parce qu'ils ont vraiment posé la question au début. Ils ont donc un peu tergiversé pour savoir ce qui leur tombait dessus. Vous avez un peu, si vous êtes dans les chroniques égyptiennes, vous avez un côté extraterrestre qui est très amusant. Vous êtes à Alexandrie, fin juin 1798, et puis vous voyez une première flotte de guerre qui arrive. Alors les habitants d'Alexandrie disent « Qu'est-ce que c'est ?» Ce sont des Francs, Trangat, des Francs, des Européens. Et ces Francs, ce sont des Inglésiennes. Et alors, qu'est-ce qu'ils cherchent, ces Inglésiennes? On demande aux Inglésiennes ce qu'ils cherchent, les Inglésiennes, et disent, vous n'avez pas vu des Ferencéennes? Non, on n'a pas vu de Ferencéennes. Et donc, les Inglésiennes, ils restent 3 jours, et puis ils s'en vont, parce qu'ils vont penser que les Ferencéennes, ils sont du côté de la Syrie. Donc, les Inglésiennes s'en vont. On souffle, parce que quand même, voir une flotte de guerre britannique sur son littoral, c'est quand même très inquiétant. Et à peine 3 jours après le départ des Inglésiennes, Black a une seconde flotte de guerre, encore plus grosse, parce qu'il y a des navires de transport qui arrivent à son tour. Et ce sont des Ferencéennes qui disent, pardon, vous avez pas vu des Inglésiennes? Donc vous comprenez, on nage dans l'extraterrestre, et on a d'abord un plan général des Francs. Puis les Francs commencent à se diviser en Ferencéennes, Inglésiennes, etc. Et alors en plus, ces Ferencéennes, comme disent les chroniques arabes, ils envahissent tout comme des sauterelles, à la fois par leur nombre, mais aussi probablement par leur dévastation. Je pense que l'image des sauterelles représente les deux. Puis ensuite, les choses vont très rapidement, parce que l'armée, elle laisse une garnison avec les mers. Alexandrie, donc elle traverse le désert et
elle marche vers le Caire.
Bon, les Mamelouks, qui sont les plus grands cavaliers du monde. Mais ils ont commencé à sentir que la guerre moderne, c'était pas leur truc. Alors, ils avaient commencé à créer des armées modernes avec des fusillés, des canonniers, etc. Mais eux, ils restaient des cavaliers. En plus, les Mamelouks, là, généralement, le temps où ils se battaient, c'était entre eux. Donc, c'était des batailles de cavaliers. On faisait pas trop de casse. Et quand on avait perdu 3 hommes, on foutait le camp. Donc, qu'est-ce qui se passe à Mbaba? Donc, ce qu'on appelle les pyramides, parce que Bonaparte avait le sens de la propagande politique, de la publicité.
La bataille des pyramides.
C'est que vous avez l'infanterie des Mamelouks, qui ne sont pas des Mamelouks, mais une infanterie, des canonniers, qui ne sont pas des Mamelouks, mais des canonniers, etc. Bon. Et puis, vous avez la cavalerie Mamelouk. Elle charge. Elle perd 15 hommes. Elle dit, oh, c'est pas pour nous, ça. parce que les Français se sont mis en carré. Elle s'en va, elle se barre en Haute-Égypte. Le reste de l'armée se fait balayer, et Bonaparte, qui a le sens de la propagande, dit « j'ai détruit tous les mamelouks », il en a tué 15 ou 20 à peu près ce jour-là, contre quelques milliers. La force mamelouk, elle est intacte.
C'est le début du mythe.
Il avait déjà le sens de la propagande en Italie, mais si vous voulez, c'est la base. Donc les Français vont occuper le Caire, ils vont ensuite conquérir de façon un peu plus difficile le delta du Nil, parce qu'il y a pas mal de résistance locale. Mais ça, on connaît, on sait à peu près comme en temps, parce que pas mal des divisionnaires de Bonaparte et des officiers ont fait la Vendée. Donc on va quadriller le delta du Nil comme on quadrillait la Vendée, c'est-à-dire par des colonnes mobiles, avec le même type de destruction que les colonnes mobiles en Vendée. Puis ensuite, chercher les Mamelouks. Alors les Mamelouks, ils sont divisés en deux groupes. Il y a les Mamelouks d'Ibrahim Pacha, qui sont partis en Syrie. Donc ceux-là, pour l'instant, ils sont hors-jeu. Et puis, c'est d'Ibrahim Bey. Et puis, il y a les Mamelouks de Mourad Bey, qui ont filé le camp en Haute-Égypte. Ils sont intacts. Ils n'ont pas été détruits, contrairement à la légende. Donc, on va envoyer deux sexes à la recherche. Alors, à chaque fois, c'est la même chose. Quand les colonnes françaises, à pied, arrivent aux Mamelouks, les Mamelouks les chargent, les Français se mettent en carré, s'attiraillent, les Mamelouks perdent 10 hommes, ils disent « c'est bien, on s'en va ». Et ils se replient de 50 kilomètres. C'est comme ça que l'armée française arrive jusqu'à Assouan, et les Mamelouks, ils sont déjà passés de l'autre côté. Et puis, dès que les Français commencent à se replier, les Mamelouks, ils passent par le désert, ils contournent l'armée française, et ils reviennent sur le Caire. En fait, pendant 3 ans, l'armée française n'arrivera pas à contrôler la vallée du Nil. Parce que, en permanence, les Mamelouks seront là, jusqu'au moment où Mourad Bey a signé un traité de paix avec le général Kléber, qui lui donne toute la Haute-Égypte, les Français conservent la Basse-Égypte, et Mourad Bey devient l'allié des Français. Mais en fait, la force Mamelouk, elle est quasiment intacte, contrairement à la légende.
Alors il y a une autre bataille, qui est la fameuse bataille d'Aboukir, qui elle va avoir de grandes conséquences sur la force française.
Ben oui, parce que Bonaparte, contrairement au projet initial, il a conservé sa flotte en Égypte, parce qu'il avait quand même l'idée qu'il pouvait se replier, éventuellement si les choses allaient mal. Ben, il faut comprendre que quand Bonaparte, avec son armée, quitte Alexandrie, il perd le contact. Et pendant plusieurs semaines, les Français qui sont à Alexandrie et la flotte qui est dans la rade d'Aboukir à côté, elle n'a pas d'information de ce qui se passe. On n'est pas à les radios, on n'est pas en temps réel. Donc la flotte, elle reste, contrairement au plan initial, elle reste à Aboukir. En plus, c'est la flotte française de la Révolution. C'est-à-dire, des gens sont très courageux, les bateaux sont magnifiques. Mais elle manque de formation, elle manque d'entraînement. La moitié des officiers de marine français sont morts entre 89 et 98, soit par l'immigration, soit les famines en Bretagne, etc. Elle manque de cadres expérimentés. Donc, qu'est-ce qu'il fait, l'amiral Bruet? Il les met en parallèle au littoral, ancré, en se disant, comme ça, on fera un mur de feu si les Anglais nous attaquent. Mais ils ont en phase 2 quand les Anglais arrivent enfin, parce que les Anglais sont repassés par Naples pour revenir ensuite en Égypte, en tournant complètement dans toute la Méditerranée à la recherche de la flotte française. Quand Nelson, il voit la flotte française, il dit « quels imbéciles ! Ils sont entre le littoral et eux, ils sont parallèles. On va faire qu'une manœuvre qui est absolument inorthodoxe, que les Français ont trouvé totalement scandaleuse parce qu'elle n'est pas dans les manuels. Au lieu de mettre les navires de guerre anglais face à face aux navires de guerre français, les Anglais ont eu le culot de partir en 2 rangs, dont en passant entre le littoral et la ligne de navires français, c'est-à-dire en prenant sur les 2 côtés à la fois les navires de guerre français, les uns après les autres. C'est pas une guerre de bataille de mouvement, comprenez, puisque les navires français sont ancrés. Donc les uns après les autres, les navires français sautent, dont l'Orient, qui est le plus grand bâtiment de guerre de tout le XVIIIe siècle, qui saute quand sa chambre des poudres explose, jusqu'au moment où les derniers bateaux de Villeneuve, à la fin de la queue, ils ont compris, ils ont levé l'ancre, ils ont foutu le camp en Europe.
Comment réagit Bonaparte face à cette défaite? Il y a de l'inquiétude chez lui du fait de
ça tombe en pleine crise de spleen chez lui. Alors là, c'est un autre problème qu'avait analysé Sigmund Freud jadis, quand il a fait la psychanalyse de Bonaparte, qui était aussi une explication, selon Freud, de l'expédition d'Égypte. Selon Sigmund Freud, Bonaparte était un cadet. Il était obsédé par la Bible. Donc, son aîné, c'était Joseph. Et toute l'ambition, au sens psychanalytique du terme, de Bonaparte, c'était de supplanter l'aîné, Joseph. Donc, entre autres, il a épousé une Joséphine, et il va en Égypte, parce qu'évidemment, l'Égypte, c'est la terre de Joseph. Et alors, au moment où il perd sa flotte, il apprend en plus que Joséphine est en train de le tromper. Donc, ça lui fout une crise de spleen qui dure quelques heures, puis il se dit, bon, les gars, on va faire de la propagande, on va vivre sur le pays, et puis la gloire, et puis, puisque c'est comme ça, on va essayer de foutre le bordel le plus total dans l'ensemble de la région pour pouvoir revenir en Europe, ce qu'il va d'ailleurs faire.
Nous allons revenir sur, notamment, la campagne de Syrie, Henri Laurence, si vous le voulez bien, après une seconde pause.
La suite de votre programme dans un instant. On retrouve Un jour dans l'histoire.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Henri Laurence. Un jour dans l'histoire reçoit Henri Laurence, auteur du livre Oriental, qui est un recueil de textes qui évoque la campagne d'Égypte. Et je renvoie d'ailleurs aussi nos auditeurs à votre ouvrage maître sur la question, l'expédition d'Égypte au point seuil dans la collection Histoire. Alors, Henri Laurence, nous évoquions l'aspect un peu politique là, et militaire de l'expédition. Il y a toute cette campagne sur le Haut-Nil dont vous avez parlé. Et après, il y a, en tous les cas en même temps, la question syrienne. Pourquoi Napoléon, enfin qui n'est pas encore Napoléon, Bonaparte, se dirige vers la Syrie ?
Alors, il y a plusieurs. En fait, c'est la Palestine. C'est assez simple d'abord parce que c'est une manœuvre préventive, puisque les Ottomans et les Anglais sont en train de se concentrer en Syrie. Donc, avant qu'ils envahissent l'Égypte, ils veulent chercher à détruire l'ennemi en face. Et puis, surtout, il veut faire la révolution. C'est-à-dire, de façon plus concrète, soulever les populations de l'espace syrien contre l'Empire Ottoman pour stabiliser, en quelque sorte, un glacis permanent d'alliés à une Égypte contrôlée par la France.
Mais nous parlions tout à l'heure des rapports entre les Français et les Égyptiens. Il y a eu une révolte, il y en a même eu plusieurs au Caire. Avait-il autant d'assurance sur le contrôle justement de l'Égypte?
Bon, vous savez, c'est des révolutionnaires français, donc massacrés, ils savent. Ils répondent aux coups de canon, à la mitraille, etc. Et la première insurrection a fait quelques milliers de morts, ce qui était suffisant pour tenir le pays quelque temps. Encore une fois, les correspondances militaires françaises parlent souvent à propos de l'Égypte, de la Vendée. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire, sur le degré de violence qu'il y a eu en Égypte dans cette période. La situation en Syrie est complexe. Disons que vous avez un grand gouverneur ottoman qui est lui-même très indépendant du gouvernement ottoman, qui est Ahmed Pacha Al-Jazar. Al-Jazar, ça veut dire le boucher. Pour dire que c'était pas un amateur de viande, mais c'était aussi un grand massacreur. C'était lui-même un mamelouk. Et Al-Jazar avait traité assez durement un certain nombre de populations de sa région. Et donc, très logiquement, Bonaparte peut escompter faire basculer de son camp les victimes du gouvernement d'Ahmed Pacha Al-Jazar. Et d'ailleurs, c'était pris tout à fait au sérieux. Alors là, on entre dans les situations un peu comiques, si vous voulez, puisque quelles sont les populations de la région qui vont se mettre du côté des Français? D'un côté, ce qu'on peut appeler les proto-palestiniens, c'est-à-dire des gens de Galilée, qui sont les adversaires traditionnels de Jazar, qui sont des musulmans et des chrétiens, les gens de la région de Nazareth, etc. Le second groupe qui est l'adversaire permanent de Jazar, ce sont les chiites du Liban Sud. À l'époque, on appelait ça le Jabal Ramil, qui sont aussi les adversaires traditionnels de Jazar. En revanche, les chrétiens du Liban, ils n'étaient pas très favorables aux Français. Parce que c'était des gens qui se proclamaient les amis des musulmans. Donc pour des chrétiens, c'était pas sympathique. Et puis parce qu'ils avaient chassé le pape de Rome, persécuté, tué le roi de France, etc. Et que ces chrétiens, ils obéissent à Rome, en tout cas pour les maronites. Et eux, donc les chrétiens du Liban, ils se tiennent de façon très prudente, ils s'informent, mais ils bougent pas. D'autant plus que les Anglais se précipitent pour leur envoyer des agents pour leur expliquer toutes les turpitudes des Français et pour dire de rester dans le camp du vainqueur, c'est-à-dire de même. Alors la campagne de Syrie, c'est 10 000 hommes, que Bonaparte avec lui, mais avec des généraux extraordinaires. Au départ, il y a un premier problème. Quand on démarre, on a la peste, mais on le cache à l'armée. Donc très discrètement, on les met dans un hôpital de campagne et puis on continue vers la capitale de Jazar, c'est-à-dire Saint-Jean d'Acre, Akka, en arabe. Au passage, on massacre. L'armée française commence le premier exploit en massacrant la garnison de Jaffa, donc en tuant de 100 francs 2 à 3 000 personnes, parce qu'encore une fois, c'est pas détendre. Pour impressionner la population, en manque de chance, c'est plutôt l'inverse. On les a tellement terrorisés qu'ils considèrent qu'ils n'ont plus qu'à se battre parce que sinon, ils vont se faire tous tuer. C'était un mauvais calcul. Ils arrivent devant Saint-Jean d'Acre. Manque de chance, il n'a pas d'artillerie, parce que l'artillerie française devait arriver par bateau, que les Anglais sont arrivés en même temps qu'eux. Et donc la flotte anglaise, elle a piqué les canons français. Donc ça va être beaucoup plus difficile à prendre les murs de Saint-Jean d'Acre. Vous savez, c'est la forteresse des croisés, mais elle a été reconstruite par les Ottomans. Et puis en plus, vous avez des ingénieurs anglais et français, enfin émigrés, le Philippot, etc. Donc tout ça, c'est un siège extrêmement difficile. Et puis, de l'autre côté, il y a l'armée ottomane qui va arriver. Elle se concentre dans la région de Damas. Donc, Bonaparte détache Kléber en Galilée. Les troupes françaises vont arriver à Nazareth, sont bien accueillies par les troupes chrétiennes. Ce sera d'ailleurs très intéressant sur le plan de la psychologie des gens de la Révolution, parce qu'arrivés à Nazareth, ils commencent à faire leur signe de croix, alors que ça fait 6 ans que le christianisme est interdit en France et qu'il n'y avait pas d'un seul curé dans l'armée française. De l'autre côté, donc, arrive l'armée ottomane, c'est la bataille de Montabaur, où ils sont battus grâce à l'arrivée rapide de Bonaparte en secours. Et puis là, Bonaparte se dit qu'il arrive à peu près au niveau du Golan. Il passe le pont des filles de Jacob pour dire que c'est tous les problèmes israélo-arabes d'aujourd'hui, c'est dans ce secteur.
Dans cette zone, oui.
Hein, c'est le Golan, Jisr Bandat Yarkoub, etc. Ils disent que je continue sur Damas, dis non, c'est trop dangereux. Parce que Acre n'est toujours pas pris. Et donc, ils se replient sur Acre, et puis avec les différentes troupes françaises, ils donnent l'assaut successif, et à chaque fois, ça échoue. Et les généraux en ont marre, les officiers en ont marre, les soldats en ont marre, parce qu'ils se font tuer à chaque vague d'assaut sur Acre. Et alors là, Bonaparte, eh ben, il décide que la bataille est foutue, et qu'il faut rentrer en Égypte. Bonaparte savait tout faire dans la guerre, sauf une retraite. Et c'était d'ailleurs considéré chez les militaires de l'époque comme la manœuvre la plus difficile. La retraite de Syrie, elle n'est pas géniale. D'abord, ils n'ont plus un seul cheval, donc ils rentrent tous à pied. Bah, ils font la terre brûler, donc ils dévastent toute la Palestine. Brûlant, nous sommes en été, encore une fois, donc ils brûlent toutes les récoltes. Et puis arrive la fameuse affaire des pestiférés de Jaffa. Parce que les Britanniques, ils ont un chef génial de l'autre côté, qui est le Commodore Sidney Smith. Et Commodore Sidney Smith, c'est un théoricien et un praticien de la guerre psychologique. Passe son temps à essayer de débaucher les soldats français. Et donc Sidney Smith fait passer des messages aux soldats français en disant désertez, etc. Et voilà Bonaparte avec ses pestiférés. Il a le choix, soit laisser les pestiférés, en sachant que les Britanniques vont les récupérer et les soigner. Mais si les Britanniques les récupèrent et les soignent, ils vont les renvoyer en Égypte pour montrer aux Français que les Anglais sont des gens sympathiques. Soit ils les tuent. Alors, il leur donne le fameux opium, etc. En même temps, c'est avec Kléber, et vous avez l'opposition extraordinaire des deux caractères.
Oui, vous arrêtez assez longtemps d'ailleurs lors d'une conférence dans votre livre sur ces deux personnalités, Bonaparte et Kléber, que vous opposez.
Vous en avez la preuve magistrale parce que d'un côté, Kléber adore ses soldats, veut les sauver, essaye de s'opposer à l'assassinat par drogue des soldats, mais il veut pas les toucher. Et il dit, mes petits chéris, je vous adore, je fais tout pour vous sauver, mais je peux pas vous toucher, j'ai trop peur de la peste. Et puis Bonaparte, lui, il va les toucher. Parce qu'il est déjà l'être suprahumain, il est exactement le roi thaumaturge, le roi de France guérissant les écrouelles. Il est déjà au-dessus de l'humain, donc il va toucher les pestiférés, mais pas leur donner l'opium. Et finalement, bon, une partie des pestiférés survivront à l'opium, seront récupérés par les Britanniques, qui se feront un plaisir d'ailleurs de les renvoyer quelques mois plus tard à l'armée française d'Égypte pour faire la nique à Bonaparte, et pour montrer comment eux, ils sont humains, et comment les autres sont des monstres, comment les chefs français sont des monstres.
Nous avançons, si vous le voulez bien, Henri Laurence, dans la chronologie. Bonaparte va revenir en France et il y aura deux grands chefs militaires et politiques. Ce sont justement Kléber, puis ensuite Menou. Alors, quelques mots sur Kléber. Il comprend très bien, vous vous montrez dans vos écrits, qu'il comprend très bien la personnalité de Bonaparte et vous en faites un déçu de l'épopée napoléonienne avant la lettre, en quelque sorte.
D'abord, c'est un déçu de la Révolution. Il faut bien comprendre quel est l'état d'âme des visionnaires français après 6 ans de guerre. Bon, ils adorent la guerre. Hein. La gloire, c'est une valeur. L'honneur militaire, c'est une valeur. Mais ils s'interrogent, pour ceux qui ne sont pas carriéristes, sur l'avenir.
Et il n'est pas carriériste.
Et Kléber n'est pas carriériste. Ils s'interrogent sur l'avenir dans la mesure où la révolution est un échec politique. La première révolution est un échec puisque ça a amené sur le 10 août. La constitution de l'an 1 et la terreur a été un échec politique. Ils considèrent que le directoire est un échec. Donc ces non-carriéristes, en fait, ce sont ce qu'on pourrait déjà appeler des thermidoriens. Sont des gens qui voient en Bonaparte la solution pour sortir de la révolution. Et c'est dans cet état d'esprit que Kléber est parti en Égypte, observer Bonaparte pour voir si c'est lui qui terminera la révolution. Et en Égypte, il s'aperçoit que oui, Bonaparte terminera la révolution, mais pour faire autre chose, et quelque chose de probablement monstrueux. Donc, il est paniqué, en quelque sorte, parce que, en voyant Bonaparte, il voit déjà l'empereur. Il voit déjà des années de guerre, une mégalomanie, un génie militaire aussi qu'il admire, etc.
Il y a malgré tout une fascination.
Oui. Mais Bonaparte fout le camp, en lui laissant l'armée sans prévenir. Et puis, il comprend en lisant les dépêches que laisse Bonaparte que la France est attaquée de tous les côtés, que c'est de la folie douce de rester en Égypte. Alors qu'on se bat en Suisse, qu'on se bat en Italie, que les armées russes en particulier se rapprochent des territoires français. Alors qu'est-ce que fait Kléber ? Il va expliquer que la situation en Égypte est catastrophique. Donc, il faut abandonner l'Égypte. Il va proposer aux Anglais d'abandonner l'Égypte, à condition de pouvoir ramener son armée à temps en Europe. Mais pour expliquer ça à Paris, il ne sait pas que Bonaparte a pris le pouvoir, parce qu'il n'y a pas de communication. Il envoie des dépêches pour dire « c'est le bordel épouvantable en Égypte, notre armée est en train de s'effondrer, on ne tient plus le pays, c'est pas vrai ». Mais du coup, les Anglais vont lire les dépêches et vont prendre pour la vérité ce qui n'est que des affirmations de Kléber pour pouvoir justifier l'abandon de l'Égypte. Donc il va y avoir des tergiversations, enfin des épisodes sont complets, des négociations, et puis les Anglais vont signer, puis ne pas signer. Et finalement, l'armée française a commencé son évacuation quand les Anglais renoncent à autoriser le départ de l'armée française. Mais manque de peau. Ils ont dû concentrer l'armée française à un seul endroit, à proximité du Caire, alors que l'armée ottomane est en face. C'est simple. Toute l'art militaire de la fin du XVIIIe siècle est de concentrer le maximum de forces en le minimum d'endroits pour frapper l'ennemi d'un seul coup. Les Anglais ont permis à tous les Français d'Égypte de se concentrer à un seul endroit, et là, il y a l'armée ottomane, et Kléber fait la reconquête de l'Égypte en quelques semaines, puisqu'il ne peut plus rentrer en France.
Alors Kléber meurt assassiné, j'avance, puisque le temps court, il sera remplacé par Menou que nous évoquerons après une dernière pause, si vous voulez bien, Henri Laurence. A tout de suite.
Canal Académie.
Je reçois Henri Laurence, auteur du livre Oriental, le tome 1, autour de l'expédition d'Égypte, aux éditions du CNRS. Alors, Henri Laurence, nous évoquions Kléber qui meurt assassiné en 1800. Il est remplacé par Menou, lui qui se convertit à l'islam.
C'est pas un personnage très intéressant, on pourrait épiloguer, mais disons que c'est un exécrable militaire. Et donc, en conséquence, il aura beau se battre en 1801 contre des Anglais encore aussi mauvais que lui, il se fera quand même battre par des Anglais qui sont aussi d'exécrables militaires. C'est assez piteux dans l'ensemble. Je crois surtout qu'il faut revenir sur les conséquences. Alors, les premières conséquences, c'est la description de l'Égypte. Alors, au départ, Bonaparte avait amené une commission des sciences et des arts. Qui était généralement composé de jeunes gens, à part quelques vieux bonzes comme Monge. C'est des jeunes gens, surtout issus de l'école polytechnique, etc., qui en grande partie constitueront l'armature scientifique de la France du XIXe siècle. Mais bon, ils ont moins de 30 ans, comme les généraux en général d'ailleurs, enfin de la période. Alors qu'est-ce que... Ils étaient là pour faire l'inventaire, d'une part, et puis connaître la sagesse antique, de l'autre. Curieusement, il n'y a aucun antiquaire, c'est-à-dire aucun archéologue parmi eux. C'est donc les relevés archéologiques seront faits par des polytechniciens, en tout cas par des ingénieurs militaires, qui sauront comprendre dès le départ, d'ailleurs, les tenants et les aboutissants, puisque c'est un obscur jeune polytechnicien qui découvre, par exemple, la pierre de Rosette et qui comprend tout de suite de quoi il s'agit. Hein? Donc ça, c'est une chose. Mais quand Kléber prend la décision d'abandonner l'Égypte, il prend aussi la décision de montrer que l'affaire n'était pas si folle que ça. Et donc, il prend la décision de faire rédiger un immense ouvrage qui s'appellera La description de l'Égypte. Et c'est lui qui en prend la décision, parce qu'elle n'était pas prévue au départ, la description. Alors, la description, elle va être à peu près 15 ans pour être rédigée. Après le retour des Français par des commissions scientifiques, à partir des notes, croquis, etc., pris par les savants. Alors là aussi, c'est une série de paradoxes. Parlons pas de l'aspect sciences naturelles, parce que c'est un point fondamental. Les travaux de sciences naturelles des savants de l'expédition seront une des bases sur lesquelles se construiront les querelles sur l'évolution au XIXe siècle. Mais en dehors des sciences naturelles, vous avez ce qu'on appelle l'état antique, c'est-à-dire l'Égypte ancienne. Alors, les relevés sont exacts, et ils servent encore énormément aux archéologues, en particulier pour des monuments qui n'existent plus aujourd'hui. Mais c'est toute une mythologie, parce qu'on va expliquer comment les Égyptiens de l'Antiquité avaient la sagesse innée des dieux, etc. Ils fantasment toujours sur le mode de Mozart, la flûte enchantée. Et la description de l'Égypte antique, c'est la flûte enchantée sur des centaines de pages, et surtout des magnifiques planches. Mais quand il les publie au début de la Restauration, ces planches, c'est le moment où Champollion est en train de déchiffrer les hiéroglyphes. Autrement dit, toute la valeur scientifique de la description en dehors des relevés est fausse. Seconde partie, c'est l'état moderne. L'état moderne, c'est la population d'Égypte, ses ressources, etc., son réseau hydrographique, sa population. Là aussi, on a les méthodes statistiques les plus sophistiquées. On fera la statistique de la ville du Caire avant celle de Paris. C'est le Chabrol de Volvic qui fera les deux successivement. Mais là aussi, au moment où on publie la description, c'est le moment où l'Égypte, depuis 15 ans, est entrée en transformation et passe du régime de l'immigration temporaire à l'immigration pérenne.
Autrement dit, au moment où on publie l'État moderne, l'Égypte a déjà considérablement changé. D'où le paradoxe extraordinaire de la description de l'Égypte, qui est à la fois un monument scientifique, un ouvrage de référence, mais au moment de sa publication, déjà un ouvrage complètement caduque.
Elle est entrée dans la modernité à cette époque, l'Égypte ?
Je dis pas qu'elle est entrée au 19e siècle, alors que les gens essayent de voir une Égypte éternelle. Et donc, en quelques années, elle s'est déjà totalement transformée.
Enfin, si vous le voulez bien, Henri Laurence, quelles conséquences politiques et géopolitiques de cette expédition ?
Bon, d'abord, on va commencer à avoir le mythe d'aller libérer les musulmans d'eux-mêmes pour les ramener à la démocratie. Alors ensuite, on refera ça à 1830 à Alger. On continuera jusqu'en 1979 à Kaboul, chez les soviétiques. Et puis encore en 2003 à Bagdad. Il suffit de juxtaposer les proclamations et vous trouverez le même système de référence et le même type d'illusion parce qu'encore une fois, on ne peut pas libérer des gens en même temps qu'on les colonise et qu'on les occupe, quelle que soit la religion en question. Mais disons que ça va être une obsession, en particulier dans la politique française, due à la référence à l'expédition d'Égypte, ce qui fait que, par exemple, Lyautey au Maroc renverra aussi à Bonaparte en Égypte, et ainsi de suite. Aujourd'hui, dans l'histoire française, c'est plus que le mélange de l'épopée napoléonienne et de l'Égypte éternelle, ce qui est d'ailleurs assez stimulant. Pour les musulmans, au départ, ça leur a posé beaucoup de problèmes d'interprétation. Bon, au début, ils se sont révoltés parce qu'ils étaient colonisés et qu'ils ne supportaient pas ça. Ensuite, quand ils ont commencé à se moderniser, ils se sont posé la question de savoir si c'était le début de la modernité ou pas. Donc, ils ont dit, on est devenu nationaliste en luttant contre les Français, mais en même temps, ils nous ont apporté les sciences. Et puis, plus tard, on a dit qu'à l'agression militaire, s'est adjointe l'agression culturelle. Donc, vous voyez, il y a différentes strates d'interprétation. Et aujourd'hui, on est donc dans une situation un peu compliquée où, finalement, pour les Français, l'expédition d'Égypte, c'est un beau souvenir très pittoresque, avec de très belles images, néoclassiques, gros, etc., vivant de nom. C'est Bonaparte dans les pyramides, etc., si vous voulez. Si je vous dis, c'est l'épopée napoléonienne à laquelle vous ajoutez l'Égypte. Donc, c'est pittoresque. Mais pour les Égyptiens eux-mêmes, c'est le début de la colonisation. Et c'est le début d'un affrontement avec une modernité qui est importée, et qui est importée par l'ennemi, les armes à la main. C'est donc toute l'ambiguïté de l'histoire du Moyen-Orient jusqu'à aujourd'hui.
Eh bien, Henri Laurence, c'est sur cette ambiguïté que nous allons nous quitter. Je renvoie nos auditeurs à votre livre « Oriental » en 3 tomes. Le premier tome est consacré à l'expédition d'Égypte, le deuxième au rapport de l'islam et de la Troisième République, et enfin le troisième est consacré, lui, à l'Orient contemporain. Je les renvoie également, nos auditeurs, à votre livre majeur, « L'expédition d'Égypte » chez Seuil, dans la collection Point Histoire. Merci beaucoup, Henri Laurence.
Merci.
Et à une prochaine fois. Au revoir. Ouais.
Écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.